Nouvelle heure d'information sur RFI, les 4 heures à Paris, 2 heures en temps universel.
Delphine Liou.
À la une de l'actualité, retour au calme à La Paz, la capitale de la Bolivie a été le théâtre d'une tentative de coup d'État. Notre correspondant Niel Sabin fera le récit de ces folles heures. Et en Mauritanie, J-2 avant l'élection présidentielle, les partis jettent leur dernière force dans la bataille. Notre correspondante a suivi une opération de porte-à-porte du parti islamiste de Tawassoul, deuxième force politique au Parlement. Et enfin, c'est une vieille connaissance que la France s'apprête à affronter en huitième de finale de l'Euro, la Belgique. Tentative de coup d'État en Bolivie, je vous l'annonçais en titre. Pendant quelques heures, des chars ont occupé la place Murillo dans la capitale où se trouvent le Parlement et le siège du gouvernement. On retrouve notre correspondant à La Paz, Niel Sabin. Niel, les militaires se sont finalement retirés et le général rebelle a été arrêté.
Oui, vers 14h30, ces militaires bloquent les accès à cette place qui est le centre politique de la Bolivie et ils tentent d'entrer de force au siège du gouvernement. Ces militaires sont menés par le commandant des armées Juan José Zúñiga qui déclare qu'il va sûrement y avoir un nouveau gouvernement et que le président Luis Arce est président pour le moment. Le président, lui, dénonce un coup d'État et appelle le peuple à se mobiliser pour la démocratie. Dans le pays, le mouvement n'est pas suivi, les militaires restent dans leur cartel. Les anciens présidents Carlos Mesa et Evo Morales dénoncent aussi un coup d'État. Le principal syndicat bolivien, la centrale ouvrière bolivienne, déclare la grève générale pour soutenir le président Arce. Alors que la confusion règne, mais que le mouvement ne se propage pas dans le reste du pays, le président nomme un nouveau chef des armées vers 17h. Celui-ci appelle les militaires présents sur la place Murillo à rentrer dans leur cartel immédiatement, ce qu'ils font peu après. Pour le moment, les raisons de cette tentative de coup d'État restent imprécises, mais lorsque Juan José Zúñiga a été arrêté en début de soirée, il a déclaré que c'était le président Luis Arce lui-même qui lui avait demandé d'organiser la prise de la place Murillo par les militaires. Niel Sabin, La Paz, RFI.
L'ancien président du Honduras, condamné à 45 années de prison, Juan Orlando Hernández, 45 ans, était jugé ce mercredi à New York pour trafic international de drogue. Le tribunal l'a jugé coupable d'avoir aidé à expédier des centaines de tonnes de cocaïne aux États-Unis. En mars dernier, il avait déjà été reconnu coupable d'association de malfaiteurs en vue de trafic de drogue et possession d'armes. Il avait présidé le Honduras de 2014 à 2022. En Afrique, au Kenya, le président fait marche arrière. William Ruto retire son budget 2024-2025, un projet qui prévoyait des hausses d'impôts, qui avait généré des manifestations et des émeutes réprimées dont la violence ce mardi. 22 personnes sont mortes selon plusieurs organisations. La Mauritanie, elle, élit son président. Samedi, le président sortant, Mohamed Ould Ghazouani, est par favori pour rester à la tête du pays. Mais les partis se mobilisent pour convaincre les derniers indécis. Parmi eux, le parti islamiste de Tawassoul, deuxième force politique au Parlement. Notre correspondante, Lalisa Westerhoff, a suivi une opération de porte à porte dans un quartier populaire de la capitale.
Une casquette blanche avec le portrait de son candidat vissé sur la mélafa bleue et rose qu'elle porte, Hadia, 19 ans, tente de convaincre ce vendeur de matelas d'aller voter.
Non, elle dit qu'il ne va pas voter.
Peine perdue, mais pour elle, qui votera pour la première fois cette année, sensibiliser à cet acte citoyen est une évidence.
Bien sûr, si tu es citoyen, c'est important que tu votes. C'est normal, c'est logique, c'est ton droit, parce que je voulais mon pays développer.
Cette petite commerçante, un seau sur la tête rempli de vêtements, elle ira voter par contre.
Je veux du changement, que la Mauritanie soit un pays où il fait bon vivre, où les gens mangent à leur faim et où les quatre communautés vivent en paix.
Pour ce membre du parti islamiste Tawassoul, faire du porte-à-porte est crucial et peut faire une vraie différence dans un pays où le parti au pouvoir domine.
Bon, l'expérience a montré que la plupart des gens qui sont inscrits souvent sont dans l'indécis, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas parce que les gens ne sont pas venus les voir. Si vous allez chez eux et que vous les rencontrez, c'est une marque de considération. Beaucoup d'entre eux ne savent pas réellement ce qui se passe au niveau de l'État, sur les partis d'opposition, comment ça fonctionne. Maintenant, si vous échangez avec eux, vous les expliquez la réalité du pays. En général, la plupart du temps, ils vous disent que moi, je n'ai pas l'intention de voter. vu que vous êtes venu jusqu'à chez moi pour me demander d'aller voter, donc je vote pour vous.
Dans les allées sablonneuses du marché Chip Chip, gilet jaune et un bulletin de vote type sous le bras, la quinzaine de militants de Tawassoul a continué à faire le tour des commerçants jusqu'à la tombée de la nuit. Léa-Lisa Vesterhoff, Nouakchott, RFI.
En France, le premier tour des législatives n'est que dans 3 jours. Mais déjà se pose la question des désistements pour faire barrage à l'extrême droite. Jean-Luc Mélenchon, le chef de la France insoumise, demandera aux électeurs de gauche, je cite, « de ne pas faire la bêtise de voter pour le Rassemblement national ». François Hollande, lui, l'ancien président de la République, appelle au désistement républicain en cas de triangulaire. « Nous le ferons sans aucune attente et sans aucune contrepartie attendue », a renchéri le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, aux 20h de TF1. Quant au centriste, François Bayrou, lui ne votera ni pour un candidat du RN, ni pour un candidat de LFI au second tour. Enfin, pour le Premier ministre, Gabriel Attal, eh bien, le moyen le plus sûr de ne pas avoir à choisir entre LFI ou le RN, c'est de voter dès le premier tour pour nos candidats. Fin de citation. La France accueille aujourd'hui le Forum international des entreprises francophones à Villers-Cotterêts dans le nord-est du pays. Plusieurs centaines de chefs d'entreprise originaires de 25 pays ont été invités, mais une cinquantaine d'entre eux n'a pas obtenu de visa. Et pourtant, ces visas sont indispensables pour favoriser les contacts entre les entrepreneurs du monde francophone. C'est l'avis de Jean-Loup Blachier. Il préside le groupement du patronat francophone cette année. On l'écoute.
Malheureusement, on s'aperçoit que c'est parfois très difficile pour un chef d'entreprise d'obtenir un visa pour venir en France, pour rencontrer justement les entreprises. Il y a au moins 40 ou 50 chefs d'entreprise qui n'ont pas pu venir parce qu'ils n'ont pas obtenu leur visa. Et puis, vous avez différents présidents de conseils économiques et sociaux, et je citerai simplement celui du Tchad. Il devait venir avec des collaborateurs, il n'a pas pu venir, ils n'ont pas eu leur visa. Moi, ce que je demande, c'est qu'il y ait au moins une possibilité d'avoir des facilités plus fortes pour les chefs d'entreprise, pour les personnes qui travaillent justement avec les entreprises françaises, de façon très large, ça peut être aussi bien des artistes, ça peut être aussi des étudiants qui viennent étudier en France, parce que si on veut ensuite que les gens continuent à parler notre langue, il est important aussi qu'ils soient enseignés dans cette langue et leur permettre, avec des visas, de venir justement dans notre pays. À mon avis, ça serait une très bonne chose. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un peu des personnes qui ont de la méfiance de l'autre. Moi, je crois qu'il faut au contraire se rassembler et accepter les différences. C'est un élément majeur et d'ailleurs, c'est vraiment un de mes plaidoyers au groupement du patronat francophone. Acceptons les autres, travaillons ensemble.
Jean-Loup Blachier au micro de Claire Fage. L'équipe de France connaît sa prochaine adversaire de l'Euro 2024. Les Bleus affronteront lundi à Düsseldorf une vieille connaissance, la Belgique, Antoine Grenier.
Rien de moins que la réédition de la demi-finale de la Coupe du Monde 2018 et celle de la Ligue des Nations en 2021, toutes les deux remportées par les Bleus. Surtout, ce huitième de finale sera un choc entre deux grosses écuries qui cherchent toujours leur carburation idéale. Les Belges, deuxième du groupe E, après leur nul 0-0 face à l'Ukraine. Des Ukrainiens qui, au passage, deviennent la toute première équipe éliminée d'un euro alors qu'elle a marqué 4 points. Le groupe des Belges aura donc été très incertain. Une Belgique qui s'en sort grâce à sa victoire de la deuxième journée face à la Roumanie. Un Belgique-France lundi. Donc à Düsseldorf, qui mettra aux prises deux nations en manque de confiance offensive. Belges comme Français n'ont inscrit que 2 buts lors de la phase de groupe. Une attaque en panne alors que les Diables Rouges comptent en leur rang Romelu Lukaku, le buteur de la AS Rome, Kevin De Bruyne, déclencheur offensif de Manchester City, son coéquipier en club Jérémy Doku ou encore Leandro Trossard qui sort d'une grosse saison avec Arsenal. Mais malgré ses armes offensives, les joueurs de Domenico Tedesco peinent à se montrer réellement dangereux et comptent sur leur défense qui n'a encaissé qu'un but depuis le début de l'Euro, exactement comme l'équipe de France. Encore un point commun. Antoine Grenier, Stuttgart, RFI.
Match à suivre donc, ce sera lundi à 18h à Düsseldorf. Mais la grande surprise de la soirée en Allemagne, c'est la Géorgie qui a battu pourtant l'un des favoris du tournoi, le Portugal, 2-0. La Géorgie, l'équipe entraînée par Willy Sagnol, qui se retrouvera donc elle aussi qualifiée pour le tour suivant face à l'Espagne. La Géorgie doit sa victoire à ses deux stars, l'ailier de Naples, Kvicha Kvaratskhelia, je vais y arriver, et à l'attaquant du FC Metz Saint-Georges, Mika Odadze, qui devient ainsi le meilleur buteur de 7 euros pour l'instant. Et puis c'était l'une des stars attendues au JO, la Jamaïcaine Elaine Thompson era double médaillée d'or olympique sur 100 mètres et 200 mètres, eh bien ne participera pas au JO de Paris. Elle souffre d'une blessure au tendon d'Achille. C'est la fin de cette édition.